Mon dernier,
auditeur de Colaviv, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un poète arabe, Adonis, qui est, on peut le dire, un peu le chêne du Liban. Adonis, qui a dit la chose suivante et qui en a fait un peu la devise de toute sa vie. Comment transformer la vie en poésie? Voilà toute la question. Et je pense qu'il est temps de parler sur cette antenne du plus grand poète de langue arabe. Et pour confirmer mes dires, je vais immédiatement vous dire un poème de lui. Poème assez récent, puisqu'il est paru dans le journal L'Orient le Jour en 1998. Il s'appelle « Index des travaux du vent ». J'ai écrit mon identité à la face du vent. J'ai oublié d'écrire mon nom. Le temps ne s'arrête pas sur l'écriture, mais il signe avec les doigts de l'eau des voix, fenêtres sur le mur des mots. Dans mon enfance, les mots échappaient à mes lèvres entrouvertes, comme une femme enceinte. Les arbres de mon village sont poètes. Ils trempent leurs pieds dans les encriers du ciel. Se fatigue le vent, et le ciel déroule une natte pour s'y étendre. Comment expliquer à l'arbre le goût de ses fruits? Comment expliquer aux cordes le travail de l'arc? La mémoire est ton ultime demeure, mais tu ne peux l'y habiter qu'avec un corps devenu lui-même mémoire. Dans le désert de la langue, l'écriture est une ombre où l'on s'y abrite. Le plus beau tombeau pour un poète, c'est le vide de ses mots. La langue de la rose, c'est son parfum. La plus profonde des rencontres n'a lieu que dans la pénombre. Est-ce que la lumière est séparation ou signe de séparation? La pénombre n'est guère l'antithèse du soleil, et plutôt son autre lumière. Peut-être que la lumière t'induira en erreur. Si cela arrive, ne crains rien, la faute est au soleil. C'est traduit par François Xavier et c'est paru le 12 mars 98. Voilà, vous connaissez un peu l'écriture maintenant d'Adonis, qui me rappelle souvent l'écriture d'un poète juif, lui, juif égyptien, dont nous parlerons la prochaine fois d'ailleurs, qui s'appelle Edmond Jabès. Adonis est donc l'un des plus grands poètes actuels qui porte et que porte même le souffle de la terre. C'est un homme très courageux, parfois même inconscient. Il est plusieurs fois menacé de mort, je vous dirai pourquoi. Et il n'hésite pas, dans un monde très étroit, le Liban, de dire haut et fort sa parole généreuse. La plupart du temps, il est censuré dans le monde arabe. Ses poèmes pour la libération de Florence Aubenas, des griffes de ceux qui n'aiment par-dessus tout que la mort, et sa fameuse déclaration, qu'on devrait mettre peut-être en exergue, qui dit la chose suivante: le voile ne couvre pas seulement le visage, il recouvre aussi le cerveau. Tout cela a aggravé son cas parmi les intégristes. Donc il est profondément haï par les sots et les fous. Ils sont hélas nombreux à notre siècle. Voici d'ailleurs le poème qu'il a fait pour saluer Florence et Roussein. Roussein était la compagnature de Florence Aubenas. S'appelle le livre. Par Adonis, un dieu sumérien m'écoutait en se lavant les pieds dans les vagues qui relient le Tigre à l'Euphrate. Ô dieu ami, est-ce vrai que tu as une fois chuchoté à ton épouse? Dans ce monde, il m'est difficile d'être dieu. Soudain, une foule d'anges s'abat sur nous et se met à lapider la langue. Si la parole était de feu, le silence ne serait qu'un début d'enfer. En vérité, c'est au ciel que poussent les racines de la catastrophe. En vérité, à Bagdad, les pierres pourraient se fondre de honte. À Paris, dans une triste chambre, j'ai voulu asseoir mon pays sur mes genoux. Ce n'était pas pour imiter Rimbaud, sa manière de traiter la beauté, mais pour fonder d'autres droits de l'homme que j'avais peur de déclarer. Combien la vieillesse de la langue a besoin de l'enfance de l'alphabet. L'univers ne cessera de pleurer et de sécher ses larmes avec les corps assassinés. Jusqu'au jour où tu donneras ton corps aux matières, aux bras de l'homme. Ce poème inédit d'Adonis a été lu en arabe par lui-même et en français par Christian Salmon au Théâtre du Rond-Point le 31 janvier. C'était l'époque où Florence Aubenas était toujours retenue. Le problème également qui complique la perception d'Adonis du monde arabe, c'est qu'il a une relecture complète du passé et du patrimoine arabe qui dérange. Il est dans la continuation des valeurs anciennes et contre ses rejets actuels. Il va tout à fait au-delà de ce qu'il appelle la fermeture du Coran sur la civilisation d'avant, riche et libre, totalement libre, qui célébrait le vin, les femmes, la volupté, la joie, les roses. Tout cela, pour lui, a été complètement mis sous un couvercle de plomb et de bêtises par l'islam. Autant vous dire qu'Adonis n'est pas islamique. C'est un mystique athée. Il est arabe, profondément arabe. Mais pour lui, j'allais dire que le Coran a été une clé qui a fermé pour lui toute une richesse du monde qu'on retrouve parfois dans le monde perse encore, qui étaient ces grands poètes d'avant. Et Guy Evic, qui était un grand poète français et qui a traduit ses poèmes, le célébrait ainsi. Oui, seul peut apprécier le chant, celui qui confie sa joie au silence. Seul, celui-là, sait peser le chant. C'était Guy Evic qui a écrit 12 poèmes pour Adonis. Adonis est quand même viscéralement lié au souffle de la langue arabe. Il ne pourra jamais s'en détacher. Bien sûr, il récuse les traditions bigotes et fermées. Il a voulu marier le monde arabe et la modernité. Difficilement d'ailleurs. Il déteste les monothéismes. Lui, qui est un panthéiste fervent. Il affirme, par Olympie d'ailleurs, que si Mahomet est le dernier prophète, nulle parole d'homme ne pourrait jamais plus être dite. Et plus engrossant encore, plus aucune parole de Dieu non plus, puisqu'il a délivré son dernier message. À partir de là, tout le monde doit se taire. Et l'homme, et Dieu, et le prophète. Et le livre, il s'agit du Coran, s'est refermé sur nous comme un piège, dit-il, comme le sceau définitif, comme le noir définitif sur l'amour. Voilà ce qu'il dit. Quant à ce qui a créé la grandeur de la poésie, ce n'était pas le religieux, bien au contraire. Et là, cette parole presque prophétique se retrouve vraie dans presque tous les monothéismes, avec ce qu'il appelle le carcan atroce de la parole révélée, qui fait qu'aucune autre parole ne peut être dite. Et Adonis renoue avec cette tradition pré-islamique qui est la célébration de l'amour et du corps. Il dit, il n'y a pas que l'islam qui déteste le corps, tout court, pas seulement celui de la femme. Toutes les religions révélées rejettent ce qui est physique pour mieux valoriser la transcendance. C'est l'être humain qui est le centre de l'univers, et non pas Dieu. Dieu est une idée abstraite, lointaine. Cette séparation entre Dieu et l'homme a fondé un discours sur le corps qui est anti-humain. Je ne peux qu'approuver cela, surtout en pensant aux religions chrétiennes et islamiques. La liberté de ton d'Adonis, son affirmation que c'est l'autre, l'humain, l'autre, qui est fondamental pour la construction de soi, en font un apostat de la pensée unique arabe, ou même pas arabe d'ailleurs. Il est donc un poète sacrilège. Pour le moment, son ombre immense le protège encore des fanatiques. Il a reçu des menaces de mort, vous ai-je dit. Il vivait en Syrie, il s'est réfugié au Liban, et maintenant, à partir de 85, c'était quand même sous le coup de la guerre du Liban, faite par Israël pour empêcher les fanatiques palestiniens de perpétrer des attentats, qu'il s'est réfugié à Paris, où il vit encore maintenant. Il a très souvent été nominé pour le prix Nobel de littérature. Il ne l'a pas encore obtenu, mais je suis sûr que cela viendra. Il est une légende, un trésor vivant. Voici un autre de ses poèmes qui s'appelle « Hier ». Hier, j'ai fermé la porte de ma chambre avec la prime étoile. J'ai tiré l'unique rideau. J'ai dormi avec ses lettres. Et voilà l'oreiller mouillé et les mots pleins. Je suis magicien. Son nom est encens et encensoir. Je suis magicien. Elle est étincelle et temple aux primes braises. Je m'étends dans l'épaisseur de la fumée, je dessine les signes, je jette un charme à sa blessure, l'efface avec ma peau. Ô toi blessure, ô enfer éclairant, ô toi blessure, ô mort ma familière. Dans la blessure, il y a des tours avec des anges. Une rivière ferme ses portes. Des herbes marchent. Un homme se dénude. Il effeuille la myrte sèche et lui rend grâce. L'eau tombe goutte à goutte sur sa tête. Il se prosterne et disparaît. Je rêve. Je lave la terre jusqu'au miroir. Je la frappe d'une muraille de nuages, d'une haie de feu. Et je bâtis une coupole de larmes. Je les façonne. Que m'as-tu préparé comme ultime cadeau ? Ma chemise, celle qui le jour des noces nous entourait. Et je descendrai avec toi dans la tombe pour te rendre facile la mort de l'amour. Je te mélange avec mon eau, je te donne à boire à la mort, et je te donne mon bien, la tombe et la gratuité de la mort. Une fois, je l'ai vu sur la terre, un flacon, mer qui se penche, pleine de conques et créatures réincarnées. Dans ce poème, vous voyez qu'une des thématiques fondamentales d'Adonis va être l'amour. Va être les métamorphoses, va être les magies, va être les vieux mythes. Un autre poème de lui qui s'appelle « Oiseau et elle ». Et l'orge dit que la transparence de femme soit la transparence du ciel, que le monde devienne une pierre de sexe. Et je la verrai, mère qui se penche, j'aimerais son écume et creuserai pour elle un coin près de mon œil. Je jurerai aux vagues qu'elles sont mes voisines, promenant selon leurs selles mes angoisses. Elles veillant avec moi ou s'endormant, lisant moi leurs propres échos. Il dit, tu es ange, et tu ne vois que sous la peau. C'est entre toi et l'ange l'unique ressemblance. Ne veux-tu découvrir le sentiment des profondeurs? Donc, abandonne à quelque autre que toi, Continent des cimes. La traduction était de Martin Feydeau. L'œuvre d'Adonis est multiforme, multimédia presque, parce qu'il embrasse plein de domaines. Des créations plastiques, c'est un excellent calligraphe, et il fait des montages, des collages, de la peinture. Et ce qu'il appelle des rakimas, qui sont une sorte de page sur lesquelles on trouve en même temps l'écriture, la couleur et le dessin. D'ailleurs, il expose souvent à Paris. Son mysticisme athée, non religieux, sa sensualité et sa réhabilitation des sens des poètes qui l'ont célébré le mettent totalement en marge du monde arabe. Voilà ce qu'il dit. C'est un mysticisme sans Dieu, païen, si l'on peut dire. Mais il faut préciser que je ne pense pas à un Dieu quelconque, à une expérience religieuse quand je parle de mysticisme. Et lorsque j'évoque la verticalité de l'expérience, j'ai en tête l'existence de la dimension ontologique au sein de l'expérience de l'amour, d'une expérience du rapport entre l'homme et la femme au-delà de l'expérience amoureuse. Donc, mystique athée, panthéiste quasiment, il célèbre merveilleusement, le sable, le désert, les arbres, la vie, quoi. Parce qu'Adonis, en fait, n'adresse ses prières qu'à la vie. Il a écrit cette phrase merveilleuse. Pour toucher la lumière, tu dois t'appuyer sur ton ombre. La parole est demeure de l'exil, chemin dans la patrie. Et pour lui, la définition de la poésie est simple. La poésie rend la vie sur Terre plus belle, moins éphémère et moins misérable. La guerre, lutte collective, relève de l'esprit de troupeau et fait régresser l'homme vers la barbarie et l'inhumanité. Il est parti en guerre contre le djihad, la guerre sainte, comme lutte pour édifier et organiser la cité musulmane. Car, je vous le rappelle, il rejette la foi musulmane. Il proclame, lui, l'incitation à l'amour, et non la lutte contre la modernité décadente. Lui qui est un poète de la modernité, il condamne ce retour vers un passé figé et oppresseur. Il connaît parfaitement la civilisation arabe et musulmane. Pour lui, il déteste par-dessus tout cette utopie meurtrière qui est celle de vouloir restaurer un califat fantasmagorique qui sont les premiers temps de Médine, vers les années 650. Il s'élève donc contre la pensée coranique et revient au poète d'avant le sceau de la pensée, c'est-à-dire le sceau, la fermeture de la pensée. Après le Coran, les poètes n'avaient plus le droit de dire grand-chose. Donc il s'élève les gens comme Abu Snevas, Bachar, Abu Taman, Al-Mari, Al-Mutanabi, Ruvas ibn al-Ward. Et il fait revivre, vivre parce qu'on l'avait oublié, tellement était profond le mépris de l'islam par rapport à la tradition pré-islamique qu'ils ont détruite, il ne reste pas beaucoup de pierres. Par contre, il reste des écrits. Et toute cette tradition pré-islamique qui cherchait une vérité infinie, il essaie de la trouver. D'ailleurs, son nom est curieux. Adonis, c'est un nom volé à la mythologie grecque. Je rappelle qu'Adonis était le fils de Mira, qui... Elle était tellement belle que les dieux, pour se venger, la poussèrent dans le lit de son père. Elle eut un fils qui s'appelle Adonis. Et ensuite, elle est devenue fontaine, tellement elle avait honte. Et Adonis a été remarqué par Aphrodite, Vénus dans le monde romain, qui tombait follement amoureuse de lui. Ils ont vécu prodigieusement bien ensemble. Puis Adonis, toujours sous la vengeance des dieux, était téméraire et parfois inconscient. Il a poursuivi un sanglier. Ce sanglier s'est retourné contre lui et l'a tué. Aphrodite, qui était en route vers l'île de Chypre, d'après ce que raconte la légende, est revenue juste à temps pour recueillir le dernier souffle. Et le sang s'est transformé en eau. Voilà qui était Adonis. C'est cette histoire un peu de renaissance. Donc Adonis parle au temps de monde très ancien, où les roses et les joies étaient faites pour être cueillies, qu'un monde actuel à faire vivre. Je vous ai dit qu'il est profondément ancré dans la modernité. Et son écriture est très souvent politique, autant que poétique. C'est lui qui a fait, par exemple, après l'attentat des deux tours jumelles à New York, un poème qui s'appelle « Stance à New York ». Et il parle donc de ce temps d'avant que la lourde tenture de l'islam retombe, le temps où les poètes chantaient le vin, les amours libres, l'homosexualité, la beauté du corps des femmes, du sexe des femmes, du temps d'avant la soumission et la haine du corps et des sens. Il dit un très joli vers qui est ceci. L'extase est un lit porté par les gazelles du désir. Donc pour lui, le monde religieux, l'accès à la transcendance, passe par le corps de la femme. Il se veut le continuateur de ces poètes maudits, oubliés, écartés, et parle donc de ce qui fut avant les lois coraniques. Il parle surtout de l'après aussi, autant de raisons qui expliquent son exil. Il s'est donné pour tâche de connaître et de faire connaître telle dans sa vérité la plus nue, le passé de la civilisation arabe, même si cette vérité fait très mal. Il dit de lui, « Je suis le poète de la métamorphose et le poète des lieux. » Il est aussi le poète de l'exil, puisqu'il a rejoint Beyrouth vers 1970. Je vous en dirai un petit mot juste après. Mais plus que l'exil géographique, il vit dans un exil mental. Les dirigeants du monde arabe, le monde des mosquées, le rejettent. Mais il a acquis une gloire universelle. Et beaucoup de gens le lisent et l'admirent. Il est traduit dans une infinité de langues. Il se veut au-dessus de tous les fondamentalismes, dans la lumière universelle de ses poèmes. Et sa forte parole passe comme une tempête de sable sur les dunes de l'immobilisme religieux. Nul patriotisme, nul nationalisme, nulle religion ne le font taire ou se soumettre. Voilà ce qu'il dit. C'est terrible de faire d'un poème ou d'une œuvre une chose utile. L'inutile est notre fortune. Vous remarquez qu'il procède souvent par aphorisme. René Char fut un grand choc pour lui. Donc, parfois, il parle comme René Char. Il tient bon. et face à tous les fanatismes. Et plus que le cèdre de son pays d'adoption, le Liban, il en est le véritable chêne. Le véritable nom d'Adonis, c'est Ali Hamad Saïd Esber. Il est né le 1er janvier 1930 dans le village de Kassabine. C'est dans la Syrie du Nord, près de Latakié. Il est aujourd'hui citoyen libanais, mais citoyen libanais dont la tête était mise à prix. Les Syriens ne sont pas des tendres. Hein. Et il vit depuis 1985 à Paris. Il clame haut et fort son universalisme, sa lutte contre les ignorants. Et il maintient, il le dit, le foulard islamique est un voile sur la vie. Il prône l'interaction des civilisations. Il sait que le retour à la pureté du monde arabe, celle que l'on décrit rejetant tout apport occidental, ne saurait conduire finalement, la phrase est de lui, qu'à laisser sur terre que des mosquées et des chameaux. Lui restera rebelle et ouvert. Il est le poète de la mémoire du vent. Une chose à dire, c'est que quand même, il a traversé une période nationaliste très forte. Il a été même mis en prison dans les années 56 parce qu'il était très proche du Parti Baas. Et il était donc farouche défenseur du panarabisme. Mais ses yeux se sont vite dessillés quand il a vu que sous le pseudo-socialisme, on ne mettait que des dictatures en place. Voilà ce qu'il dit également. Mes désirs, c'est de rester l'étranger rebelle et d'affranchir les mots de l'esclavage des mots. Un autre poème maintenant d'Adonis qui s'appelle « De mémoire du vent ». J'écris mon identité à la face du vent. J'ai oublié d'écrire mon nom. Le temps ne s'arrête pas sur l'écriture, même s'il signe avec les doigts de l'eau, des voix, fenêtres sur le mur des mots. Dans mon enfance, les mots échappaient à mes lèvres entrouvertes, comme une femme enceinte. Les arbres de mon village sont poètes. Ils trempent leurs pieds dans les encriers du ciel. Se fatigue le vent, et le ciel déroule une natte. Pour s'y étendre, vous retrouvez le poème que je vous ai lu au début et qui pour moi est un poème majeur. C'est pour ça que je vous l'ai un peu redit. Il tient souvent des conférences et raconte et des émissions de radio, pas souvent sur Arte. Il redit pour la millième fois, parce qu'on lui demande sans arrêt « Comment êtes-vous devenu poète ? Comment êtes-vous, vous fils de paysan, très pauvre ?» Quel est le conte de fées qui vous a permis d'étudier ? Voilà ce qu'il dit. Lorsqu'il a 12 ans, en rêve, il se voit écrire un poème au président de la toute nouvelle République syrienne. Il vient le lire, lui petit paysan, à ce président qui lui demande alors un souhait. Et dans son rêve, il se voit répondre « que je puisse aller à l'école ». Plus étrange n'est pas ce rêve, c'est que le président de la République d'alors, Shukri Hal Kuwalti, se rend visite dans le village voisin de là où il est né, près de Latakié. Et il joue des coudes à Adonis, et il parvient à lui lire ses vers, avec un culot, parce que c'était pas simple de s'approcher d'un président de la République. Et le chef de l'État est fasciné, impressionné. Il lui demande quel est son souhait. Il lui répond que je puisse aller à l'école. Et le chef de l'État tient parole et veille à ce qu'il entre au lycée en 1942. Donc il fait ses études, il apprend à lire et à écrire. Il sera le seul de sa famille à pouvoir le faire. Il vit ainsi, il écrit très tôt. À l'âge de 15 ans, ses poèmes sont publiés, il est très vite célèbre. 55, je vous l'ai dit, il était emprisonné pour 6 mois pour appartenance au Parti national syrien, un parti qui quand même prônait l'expansion de la Syrie sur tout le Moyen-Orient quasiment. Hein. Après sa libération en 1956, il va fuir à Beyrouth et il fonde, avec un poète comme lui syro-libanais, Youssouf al-Khal, le magazine qui signifie poésie en arabe Shi'ir. Et là, il abandonne son nationalisme militaire pour le panarabisme, qui était très en vogue. Mais petit à petit, il abandonnera cela aussi. Car il se consacre en fait presque exclusivement à ses activités littéraires, mais aussi à ses activités politiques. Il n'a pas sa langue dans sa poche et il critique les pouvoirs. En 1968, il fonde une revue, qui existe encore d'ailleurs, qui s'appelle Mawakif, Position. Et c'est là qu'il fondera sa philosophie en fait. Il cherche le renouvellement de la poésie arabe contemporaine en s'appuyant sur un passé très ancien, glorieux, d'avant l'islam, mais aussi en voulant y instiller la richesse de la poésie contemporaine. Il a traduit Char, Michaud, tous ces gens-là. Donc il est profondément imprégné de la poésie française, mais de la poésie contemporaine, de toutes les langues. Et il y a eu une guerre civile libanaise, vous devez vous en souvenir, il fuit le Liban vers les années 80, et après avoir erré, il s'est réfugié à Paris en 85. Le monde unanime le considère comme le plus grand poète arabe vivant. Il est d'ailleurs, et ça c'est bizarre, parce que vu la haine qu'il suscite, le représentant de la Ligue arabe à l'UNESCO. Bon. Et il raconte souvent comment il a pris le nom de plume d'Adonis, qu'il n'a pris qu'en 47. Hein. Il était lassé de voir toutes les revues arabes refuser ses poèmes. Il a lu par hasard la légende d'Adonis, qui était donc l'amant d'Aphrodite, qui fut dévoré par les sangliers. Et de ce corps d'Adonis est sorti de l'eau claire, je vous l'ai dit, mais également une fleur rouge. Et tous les autres sont devenus des sangliers. Cette légende morte, celle d'un dieu de la mort et de la résurrection, l'a rendu vivant. Et en prenant le nom d'Adonis, par miracle, tous ces textes sont alors acceptés. Donc même au sein du monde arabe, il valait mieux avoir un nom occidental. Cet emprunt de nom va plus loin pour lui que le simple fait d'avoir un nom de plume. C'est une sorte d'allégeance à un dieu mythique, un dieu parmi les dieux, et non plus à un dieu unique, un dieu monothéiste. C'est un dieu de l'amour. C'est une légende qui s'oppose à d'autres légendes. En fait, il célèbre le retour du profane parmi les hommes. Mais lui ne se veut ni guide ni prophète. Simplement et absolument poète. Le poète né dans un désert de langues et qui les reconstruit toutes par ses dires et ses maximes, ses aphorismes. Paysan, il est né. Homme de terre, il est resté. Il regarde par-dessus l'horizon des horizons. Celui qui nous dépasse et nous fait. Celui toujours plus loin, de l'au-delà vers qui on tend ses mains. Il marche sur les abîmes. Et ne cède pas au vertige, à la séduction du néant. Le thème de la mort est totalement omniprésent dans l'œuvre d'Adonis. Et quand il dit « Je marche, mon linceul me rattrape », ce n'est pas d'une mort figée. Même la mort se met alors en mouvement. Et nourri de Saint-Jean de Perse, de Yves Bonnefoy, également d'un poète de langue française, libanais, qui s'appelait Georges Chehadeh, qu'il faudra redécouvrir. Il va marier à la fois son mysticisme païen et le surréalisme. Il aura également beaucoup traduit. Sa seule volonté, finalement, ça sera d'ouvrir le monde aux autres, à l'altérité. Que veut finalement Adonis ? Il veut recréer, il en appelle à une sorte d'Andalousie des profondeurs. Cette Andalousie un peu mythique, parce que ce n'était pas tout à fait le cas. Hein. Il y avait les Rumi et les seigneurs. Hein. Mais pour lui, c'était cette tolérance absolue entre les juifs, les morts et les catholiques. qui se faisait autour de Grenade et de Séville. Il se veut aussi poète qui affronte le champ, qui ouvre un espace plus immense que l'espace lui-même, et tous les soupçons de désert que l'on pouvait pressentir à chacun de nous sont là devant nous, déployés. Il affronte le champ, le temps et l'immense. Il est la sentinelle de la nature, celle qui nous regarde aussi vieillir, elle qui ne vieillit pas. Adonis est à la fois le roc et la poussière, le voyageur et les pierres qui le regardent s'en aller. Il dit ceci. Il resta où le désert était autre épaule pour l'aider à surmonter la mort et laissa à ce qu'il aime, l'avenir, une portion de soleil macéré dans le sang d'une gazelle qu'il appelait ma bien-aimée. Il avait passé avec l'horizon un accord pour en faire sa dernière demeure. Adonis prend une sorte de figure mythique, la figure du vent, et il enroule l'espace autour de ses mots. Il dit la chose suivante. « L'amertume de mes jours visionnaires m'a appris, il n'est chemin pour l'amour qui ne soit vertical. » Adonis est une voix rebelle, une voix qui est un vent violent, une voix qui célèbre surtout l'amour. Sa parole est cinglante, sa parole est douce aussi, car il mêle au soyeux des mots tendres et charnels, aussi doux que du miel et du lait de chamel, la force de l'imprécation du prophète. Il semble écrire des psaumes, ou un peu comme René Char, des aphorismes plus tranchants que les pierres. Il y a un étrange mélange, du moins ce que je peux en lire en français, je ne parle pas arabe, de préciosité, j'allais dire de cérémonie des roses, et de violence, de mystique, également d'épée. Il y a dans sa poésie un nomadisme profond, une vie qui va et qui cherche. La vie est ma victime, je ne sais comment mourir, mon temps est caché, il est sous mes yeux. Un de ses recueils s'appelle « Mémoire du vent ». Il est « Mémoire du vent ». Il reprend le souffle de Saint John Perse, mais sans les envolées polyphoniques de celui-ci. Il, lui, travaille dans le lapidaire, l'elliptique. Il a un peu la posture de Victor Hugo face aux nuées. D'ailleurs, on l'appelle le mage hugolien, qui se mêle de tout, qui se mêle du monde et qui profère ses jugements. Il se veut, et d'ailleurs il l'est profondément, la conscience du monde arabe. Il a écrit un manifeste pour une fin de siècle. C'était il y a 30 ans. Mais hélas, 30 ans après, ce texte reste brûlant et lucide. Je vais vous le lire dans la nouvelle préface qu'il a faite dans la réédition. 30 années se sont écoulées depuis ses écrits et rien n'a changé. Pis, tout s'aggrave. L'espace de la liberté régresse et la répression s'amplifie, diminue aussi nos chances dans la démocratie et une société civile plurielle et diversifiée. Et s'accentue violence et tyrannie. Aujourd'hui, nous sommes moins croyants, moins cléments, mais plus confessionnels et plus fanatiques, moins seuls et plus démembrés, moins ouverts aux autres et tolérants, plus cruels et renfermés. Ainsi, aujourd'hui, nous sommes plus pauvres. Et ce que nous appelons patrie est en train de se transformer en une caserne militaire ou un camp tribal. On s'est évertué en ce siècle à nous entretenir de l'unité arabe et à prêcher le nationalisme arabe. Nombreux, très nombreux, sont ceux qui sont morts pour ses principes et ses valeurs. D'autres ont été torturés, emprisonnés, exilés. Et au nom de cela, des régimes triomphés ou chutés. Ce texte, donc, qui vient d'être réédité, a dû faire graisser bien des dents. Comme Jabez, auquel je le rapproche souvent, il sait que le livre est le peu de sable fin pris un jour au désert et qui sera restitué quelques pas plus loin. Voilà ce qu'il écrit dans l'infini de sa parole. Je sais, l'invisible est cette rose, l'invisible est cette femme, et le visage est l'envers du ciel. Je sais, nuage par nuage, mes ciels remontent des paradis terrestres. Bienvenue alors à l'histoire et à ces atomes de poussière, l'éphémère. Comment peut-il désespérer alors que le vent est son chemin? C'est tiré du recueil Mémoire du vent. Adonis se définit superbement de la façon suivante. Moi, je viens de l'avenir. Belle parole, fière, hein? Et il veut voir de ses yeux, de ses mots, l'invisible. Il campe aux marges du questionnement, aux mouvances de l'éphémère. Il erre, il est nomade, pour débusquer le cachet, le secret des choses. Il marche, et le rythme de sa poésie est souvent celui de la marche, d'ailleurs. La marche d'un homme seul, mais transportant avec lui toutes les odeurs des villes métisses et chaudes au loin qu'il a un jour traversées. Ce qui, pour moi, caractérise le mieux la poésie d'Adonis et le pourquoi de cette émission, pourquoi j'ai voulu à tout prix vous faire connaître un poète arabe, c'est l'ouverture au monde et la recherche de soi qu'il véhicule. Il dit « Je marche vers moi et vers tout ce qui vient. » Sa définition de la poésie est très belle et très simple. Toute mon œuvre de poète repose sur cette conviction que l'art, la poésie, n'exprime pas l'existence ou l'être humain, mais les complète. Exprimer une chose, c'est toujours n'en dire qu'une partie. Fort heureusement d'ailleurs. Quand je parle, je ne m'exprime pas, je me projette. La poésie, l'art, sont donc un prolongement de l'existence. Pour eux, je ne cherche pas à reproduire la réalité, ni même à la saisir, mais en a inventé une autre qui va éclore et continuer à se déployer hors et en avant de celle dont on vient. Adonis est donc un homme de parabole, un homme de migration, un homme de l'éphémère, qui fait manger les métaphores dans ses mains comme le sel pour les bêtes dans une traversée du désert, dans une caravane. Et c'est une des plus belles figures possibles du poète. Ses poèmes sont comme des caravansérails, des caravanes de sel qui s'avancent vers nous. Je vous ai dit qu'il prenait l'arabitude, mais pour lui, c'est un monde arabe d'avant, un monde arabe d'après, celui d'une conscience. Il est une sorte de nouveau mage. Pour lui, la fin du livre est peut-être aussi la fin des temps. Adonis nous dit le temps du livre, le temps des déserts, le temps des hommes. Il semble avoir porté et créé l'arabitude dans un grand souffle de liberté qui devrait tous nous inspirer. Il dit la chose suivante. J'appartiens au vent, ceux dont les orages unifient la face de la terre, le visage du ciel et la figure de l'homme. Ce livre, il continue à l'écrire, car tout livre doit continuer à être écrit. La poésie est son propre chemin, son unique but. Elle est le monde. Voilà pourquoi j'ai voulu vous parler d'Adonis. Je vais maintenant, pour terminer, vous lire quelques poèmes. Un poème tiré du recueil Commencement du corps, fin de l'océan, qui est traduit par un grand poète libanais, qui est venu souvent à Toulouse d'ailleurs, qui s'appelle, ironie des choses, Vénus Kura Gata. Vous savez qu'Adonis et Vénus, Adonis et Aphrodite, étaient liés, c'est le moins qu'on puisse dire. Voici ce poème. Je n'entends passe sa voix. Cet alphabet, que dit-il ? Le poète doute des forêts qui s'étalent sur ses champs et fait descendre sur lui ses foudres. Amour, suggestion qui librement s'écoule des jarres de l'éternité. Amour, astre qui mendie l'espace. Un autre extrait. J'ai dit, pas de cahier, dit Delivre. N'a rien répondu. Un fleuve de douleur coula dans ses mains. Un fleuve de tendresse coula entre nous deux. Et nos bras se rejoignirent et nos coups se rencontrèrent. Maintenant, des extraits d'un très très long poème que je ne pourrais pas vous lire en entier, qui s'appelle Le Concerto pour le 11 septembre 2001 avant Jésus-Christ. Et les concertos pour le 11 septembre 2001 après Jésus-Christ, écrit à Paris en septembre 2002, qui est un hommage aux victimes de l'attentat sur les Twin Towers à New York. Voilà ce qu'il dit, enfin un simple extrait. Hein. Reposez sur la soie de Dieu, ou livrez-vous à la roue de la machine. Lui, l'indopté, s'engagera dans les strates souterraines de la Genèse, muni d'une eau porteuse de séduction dans une existence d'une moitié de plomb et l'autre de légende, dans un déluge de membres déchiquetés où s'égarent les éléments et se déchaîne la matière. Le 11 septembre 2001, avant Jésus-Christ, le 11 septembre 2001, après Jésus-Christ. Une science de notre rythme pour allier l'inéité et l'éphémère entre la nuque et l'épée, entre le souffle et le vent. C'est à vous, aux gens, d'applaudir le sang jaillissant de la veine de Dieu, à vous de vous incliner devant l'hypostase du plaisir dans le temple du mal, dans un flot de jus métallique, dans des cascades de feu, dans des ciels devenus lits par les cendres. Lui, l'indopté, suivra les traces et les strates de la Genèse, descendant jusqu'aux profondeurs les plus basses, écrivant une histoire nouvelle de la voix, des lettres et des mots. Un autre extrait, toujours du concerto. Le présent est un abattoir, la civilisation est un four nucléaire. Et que dites-vous des hommes ? Chacun vit à l'intérieur d'une boule de neige, avec pour seul rêve se promener sur l'étoile Vénus. Et dites, qui domine l'imaginaire de l'Occident ? Comment la main du bien pourrait-elle s'emparer du bâton de Moïse pour faire exploser la fange de la guerre ? Comment transformer les mille et une nuits en mille et une armées ? Et dites, qui fait de la divinité un jouet ? Ma certitude réside dans une toile d'araignée. Ce qui s'effrite dans la poussière des galaxies n'est ni un astre ni une machine pour envahir les orbites. C'est la poésie de la matière, comme mes cinq sens aujourd'hui ont besoin de lire les livres saints avec l'œil de la poésie. Boudin serait heureux, lui qui lit avec son corps, lui qui aime la poésie. Le hasard est la demeure de l'être. La parole n'a pas de fin, la connaissance n'a pas de sceau. Camoufle tes intestins techniques en avalant le corps de l'univers, mais aussi lent que tu sois ton parcours, jamais tu n'atteindras l'inconnu du cœur. Et combien tu souffres, ô grâce de l'art. La plume brise sa sœur, l'encre s'entretue avec l'encre. Un autre extrait, par lequel on va peut-être terminer. Dans une forêt d'algues d'uranium, nous construisons des fours qui nous préparent le pain bactérien. Si seulement je savais comment nouer le silence avec le fil du rêve, je pourrais alors entrer dans le lit d'une coquille ou visiter une frondaison. Réjouis ma patrie, où sont les bras, fleurs du jasmin ? Et toi, oiseau migrateur, mieux vaut pour toi être capturé dans le pays de ta migration qu'étranglé dans le lit de tes parents. N'oublie pas d'embrasser en mon nom la première branche qui accueillera tes ailes. Quant à moi, j'embrasserai l'air pour toi, ne serait-ce que pour examiner les chaînes qui verrouillent mes lèvres. La plus belle chose qui distingue le corps de la mer est qu'il est captif du délire des vagues. Quand et comment glisserons-nous la bague de la nature sur l'auriculaire de Dieu? Je demande et je sais. L'ignorance, ici et là, est la clé du savoir. Voilà sur ce poème pessimiste, sur cette guerre contre les nationalismes et les fascismes, il n'y a pas d'autre terme. Je voudrais juste vous dire au revoir et vous conseiller de lire quand même au moins deux livres qui sont parus en livre de poche chez Gallimard, hein, qui s'appellent, le plus étonnant d'ailleurs, Chant de Millard, le Damascène. Millard qui célébrait le vin, les femmes et également la beauté du monde. Et le deuxième qui est également paru en livre de poche, qui s'appelle Mémoire d'Adonis. Mémoire du vent, pardon, qui sont une série de poèmes de 1957-1990. Chers auditeurs, je vous remercie. Merci de m'avoir prêté attention. Au revoir et à bientôt, j'espère. Thank you.